je vais à nouveau vous inviter à faire un petit voyage dans le fameux jardin d'Éden. J'espère que ça ne vous lassera pas, parce que ça, je crois que c'est la troisième fois que j'en parle. Ceci dit, à chaque fois, j'essaye d'avancer un peu et de sélectionner des thèmes nouveaux, parce qu'on s'aperçoit en lisant cet épisode de la Genèse, du livre de la Genèse, que finalement, c'est très riche en enseignements, et on n'a pas fini de découvrir. Alors, aujourd'hui, le message s'intitule « Le mystère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de son fruit ». On avait vu juste avant d'autres thèmes, on avait vu qu'Adam et Ève étaient des êtres qui n'avaient pas de quoi se plaindre. On a vu également comment est-ce qu'ils ont, après la chute, après avoir désobéi, comment ils ont fait une chute vertigineuse aux enfers. Il y a eu une succession de nouveaux péchés qui les a entraînés finalement dans la situation que nous connaissons, celle de l'humanité. Et là, je reviens sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça reste encore un mystère pour moi. Alors, du coup, n'ayez crainte, le message va être court. Il va être court parce qu'au départ, il y avait trois parties. J'ai réduit à deux parties. Et la deuxième partie, je ne la traiterai pas aujourd'hui parce qu'elle est compliquée. Je n'ai pas terminé et je ne suis pas prêt. Et il faut que ça, faut que ça mûrisse, il faut que je médite encore. Je ne suis pas prêt à révéler, ou en tout cas, voilà, à révéler le fruit de mes réflexions, de mes prières à ce sujet. Donc là, je vais rester sur une première partie plutôt simple et courte. Alors, vous avez dû entendre parler du mythe de Prométhée. Prométhée était un titan. Et ce titan, lorsque les dieux ont fait le partage des qualités entre les hommes et les animaux, c'est de la mythologie, hein, Prométhée s'est dit, mais finalement, les hommes ont été lésés. Il semblerait que les animaux aient eu plus de grâce de la part des dieux, de Zeus, que les hommes. Par conséquent, ce titan qu'on appelle Prométhée, il s'est mis en tête de devenir le protecteur des hommes. Et qu'a-t-il fait ? Il est allé voler le feu de Dieu, le feu de Zeus, le feu sacré, et il est allé le porter aux hommes. Et ainsi, les hommes ont pu devenir plus forts. C'est ce que nous raconte l'histoire, donc je ne rentre pas dans le détail. Donc, il y a une analogie, ou si vous voulez, il y a une correspondance entre ce récit de Prométhée qui est allé voler le feu pour le donner aux hommes, et Satan, initialement l'ange de lumière, hein, Satan, initialement l'ange de lumière, l'archange protecteur, comme tu l'avais dit Bernard l'autre jour, qui a proposé aux hommes finalement de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, c'est très proche, ça se rejoint là-dessus. Alors, Satan est-il effectivement un protecteur de l'humanité? Satan nous a-t-il fait du bien en nous invitant à désobéir, hein? C'est la question qu'on peut se poser. Et qu'en est-il advenu alors de l'humanité? Est-ce que finalement elle a été grandie? Est-ce qu'on ressort grandi de cette expérience de la désobéissance? Alors je vous avouerai que le choix de me lancer dans cette méditation a donné lieu de ma part à de nombreuses hésitations au départ, parce que je ne me sentais pas prêt. Ça fait pas mal de temps que je médite là-dessus, puis j'avais un blocage. Hésitation pourquoi? Parce qu'il semblerait que cet arbre de la connaissance du bien et du mal soit environné de mystères. Les versets disponibles à ce sujet sont plutôt succincts, ils sont parfois hermétiques et ils sont peu nombreux. On n'a pas beaucoup de matière pour creuser cette question-là. Et en plus, vu le contexte, cela relevait plus du défi qu'autre chose. Alors si j'ai finalement décidé de quand même vous présenter cette étude, poursuivre dans la voie, c'est qu'il me semblait qu'il y avait sur ce sujet beaucoup, comme d'habitude, beaucoup d'incompréhensions, d'erreurs, de fausses représentations qui méritaient d'être portées à la lumière. Compte tenu de cela, je souhaite que cette étude soit pour vous, et pour moi, un commencement, un début de réflexion qui pourra, je le souhaite, être poursuivi par la suite à titre personnel. C'est un début, mais c'est vrai que ça peut nous faire méditer et plus profondément. Hein, donc c'est juste un début. Donc je vous propose, dans un premier temps, de voir que cette fameuse connaissance, de voir ce que cette fameuse connaissance du bien et du mal n'est pas. Qu'est-ce qu'elle n'est pas? D'accord? On va faire le tri. On commence par savoir ce qu'elle n'est pas. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va essayer de voir ce que Adam et Ève pensaient qu'elle était, pensaient obtenir en s'en saisissant, en goûtant à ce fruit. Et dans un troisième temps, nous allons essayer de voir ce que représente véritablement cette connaissance du bien et du mal. Et cette troisième partie, ben, vous devrez attendre la prochaine fois pour qu'on puisse y aborder. Donc on va d'abord voir ce que cette connaissance de l'arbre, ce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas. Alors si tu veux bien, on va lire tous les versets qui sont utiles à cette étude avant d'aller plus loin. Alors, le serpent était le plus rusé, Genèse 3, versets 1 à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien du mal. » Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir quoi ? L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, souligné mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On va s'arrêter là. Et on va poursuivre avec le verset 22. Gérard, si tu veux bien. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, après cela, « L'homme, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Pas pour autre chose. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas. Premier point. Goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas une autre façon de dire goûter à la sexualité. Ça va vous choquer, mais il faut le dire. Cela ne signifiait pas pour Adam et Ève avoir eu une relation sexuelle. C'est surprenant que j'aborde ce sujet. Vous allez voir pourquoi. En effet, Dieu avait interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'avait pas interdit à Adam et Ève d'avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet. On lit dans les versets Genèse 1, versets 27 à 28. Genèse 1, versets 27 à 28. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse 2, l'Éternel, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une homme de la côte qu'il avait prise, de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Il fait les présentations. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne deviendront une seule chair. Parce que là, il me semblerait qu'il n'y a rien qui interdise l'homme et la femme de s'unir. De plus, si un acte sexuel avait bien eu lieu, cela s'est produit uniquement une fois que Adam fut chassé par Dieu du jardin, et non avant. Le livre 3 de la Genèse se termine avec le verset 24. On lit « C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Ça, c'est la fin de la Genèse 3. Et ça enchaîne directement avec Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Donc, la première fois qu'Adam et Ève ont eu une relation sexuelle, sauf erreur de ma part, c'est une fois qu'ils ont été chassés du jardin. D'accord ? Pas avant. Mais avant, rien dans le texte n'interdisait cela. Alors, enfin, il n'y aurait aucune raison valable d'ailleurs d'associer l'expression connaissance du bien et du mal à l'expérience sexuelle, puisque le verset en Genèse 3, verset 6, fait un lien explicite entre connaissance du bien et du mal et intelligence. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir quoi ? L'intelligence. Il n'y a aucune allusion ici à la sexualité homme-femme. Aucune. Alors, pourquoi est-ce que je me permets d'insister là-dessus ? Parce que moi, petite personnelle, j'ai entendu de nombreuses fois à ce sujet des choses qui, quand j'étais jeune, quand je n'étais pas encore chrétien d'ailleurs, m'ont perturbé. Et il m'a fallu des années en lisant la Bible pour me dire, mais c'était des histoires, d'accord ? Je me suis permis de commencer avec ce premier point, car beaucoup d'entre nous avons un jour entendu dire que ce fruit défendu renvoyait à la consommation de l'acte sexuel. Or, cette interprétation il s'agit d'une interprétation mensongère de la Bible, encore persistante dans l'inconscient collectif, et qui est venue durant des siècles faire quoi ? Entacher, culpabiliser injustement la question de la relation sexuelle homme-femme, alors que cela n'avait jamais été un problème en soi pour Dieu. Ce n'a jamais été un problème en soi pour Dieu. C'est les hommes qui sont venus mettre de la noirceur sur cette question. D'accord ? Donc en effet, Adam était devenu le mari d'Ève dès lors que Dieu la lui avait présentée. Et à ce titre, il n'y avait pas d'interdit à ce sujet. Donc, ce point est important pour moi. Donc, première conclusion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas lié à l'acte sexuel ou à une désobéissance concernant l'acte sexuel. Passons au deuxième point. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas en lui-même, ni d'ailleurs dans l'absolu, ni négatif, ni mortel. Ça peut vous surprendre, je répète. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas dans l'absolu négatif ni mortel. En effet, on découvre que cet arbre siège en plein milieu du jardin d'Éden. Et aux côtés, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il siège au plein milieu du jardin et aux côtés de l'arbre de vie. Non seulement la place qu'occupent ces deux arbres dans le jardin d'Éden semble indiquer leur valeur, leur importance, mais aussi leur complémentarité. Ajoutons au passage, c'est une petite plaisanterie de ma part, que si Dieu avait placé ces deux arbres à cet endroit, sachant qu'il s'était exclamé au sixième jour de la création que tout était très bon, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal devait être en soi lui-même aussi très bon. Dieu n'aurait pas dit tout est très bon si l'arbre qu'il avait planté n'était pas très bon lui aussi. Donc je le répète, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était très bon. Très bon, aux yeux de Dieu, et ce pour plusieurs raisons que je ne développerai pas. Ces deux arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourraient alors symboliser deux attributs divins complémentaires. En tous les cas, le verset 22 en Genèse 3 nous révèle que Dieu lui-même possède cette connaissance. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Ça veut dire quoi ? Pour la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu la possède. Alors Dieu n'a pas goûté à ce fruit, certainement, mais il a cette connaissance du bien et du mal. Hein ? Il l'a, lui. Il la possède, et cette connaissance du bien et du mal chez Dieu n'est pas incompatible avec sa sainteté. Elle n'est pas incompatible avec son éternité. Vous avez remarqué ? Pour l'homme et la femme, ça n'a pas été pareil. Vous avez remarqué qu'une fois que eux, ils y ont goûté, qu'ont-ils perdu ? Qu'est-ce qu'ils ont perdu immédiatement ? La vie éternelle. Une fois qu'ils ont désobéi, ils sont morts, spirituellement morts et physiquement morts, puisqu'ils étaient destinés à retourner à la poussière. Ils ont perdu l'éternité, ils ont perdu leur innocence, n'était pas sain, leur innocence. Alors que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu peut concilier connaissance du bien et du mal, sainteté, éternité. Voilà pourquoi Dieu a souhaité, n'est-ce pas, empêcher l'homme d'accéder, car ce n'était pas compatible avec la nature humaine. Nous avons vu qu'il n'en a donc pas été de même pour Adam et Ève, etc. Il semblerait que la possession de ces deux attributs, que sont l'éternité et la connaissance du bien et du mal, soit réservée à Dieu, exclusivement. Et qu'au contraire, ces deux attributs soient impossibles à l'homme, interdits à l'homme. Deuxième conclusion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas en lui-même mauvais, n'est pas en lui-même négatif, il n'est pas en lui-même mortel. Tout dépend de celui qui y accède. Tout dépend de la personne qui accède à cet arbre. Quand c'est Dieu qui accède, il n'y a pas de souci. Quand c'est l'homme qui accède, c'est la mort. Troisième point, qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas? Ce n'est pas le pouvoir, cet arbre ne procure pas le pouvoir de donner le discernement moral. Les hommes possédaient déjà le discernement moral. Avoir la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas avoir la capacité nouvelle de discerner. C'est faux. En effet, comme nous l'avons dit lors d'un précédent message, si Dieu a cru bon de placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal au bon milieu du jardin d'Éden, sous les yeux d'Adam et Ève, sans leur en empêcher l'accès physique, c'est que Adam et Ève devaient forcément avoir la capacité à juger moralement de ce qui relevait d'une faute grave, de ce qui relevait d'une désobéissance, n'est-ce pas ? D'autant plus qu'un avertissement avait accompagné les paroles de Dieu, à savoir le risque de mort. On lit dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À qui est-ce qu'on peut donner un tel avertissement si cette personne n'est pas en mesure de comprendre ? À moins d'avoir un Dieu criminel, hein, mais voilà, je ne vois pas comment est-ce que c'est possible. Donc Adam et Ève avaient, de toute évidence, la capacité de discernement moral. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas l'arbre qui confère à l'homme le discernement moral. Alors du coup, on commence à se demander à quoi il sert cet arbre. Parce que, ouais, plus on creuse, et moins il y a de solutions. Ouais. C'est ça qui est compliqué là-dedans. Nous poursuivons. Quatrième point. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas non plus le pouvoir de donner l'intelligence. Quelle différence entre l'intelligence et le discernement moral ? Je fais une petite parenthèse. On peut être intelligent sans avoir de discernement moral. Prenez un enfant. Un enfant, 2 ans, 3 ans, même 1 an, il y a déjà de l'intelligence chez l'enfant. Puis, il faut qu'il arrive à un certain âge pour pouvoir différencier le bien et le mal. Mais il y a de l'intelligence, donc on peut être intelligent sans discerner. Par contre, quand quelqu'un discerne, c'est qu'il est forcément intelligent. Donc, si on discerne, c'est qu'on est intelligent. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Adam et Ève étaient donc discernants, ils discernaient le bien et le mal, donc c'était par conclusion, par conséquent, forcément intelligent. Donc ça ne se démontre pas, mais je vais quand même vous lire des versets qui illustrent le fait qu'ils étaient intelligents. Il suffit de lire quelques versets des premiers livres de la Genèse pour s'en convaincre. Rappelons tout d'abord que Dieu fit l'homme à son image et qu'à ce titre, il aurait été surprenant que l'homme n'ait pas lui aussi été, puisque Dieu était lui-même intelligent. On regarde dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel. Qui peut dominer sur qui sans être intelligent ? Pour dominer, il faut de l'intelligence. Ensuite, on découvre que Dieu s'adresse aux hommes en les considérant comme des sujets dignes d'intelligence, puisqu'il leur confie aussi des responsabilités. On est au verset 28. Dieu les bénit et leur dit, quand on s'adresse à quelqu'un, c'est qu'on s'adresse à un sujet pensant. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, etc. Dieu parle aux hommes. Genèse 2, verset 15. Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. à qui confierait-on une telle tâche? Confie-t-on une tâche à une personne idiote? Non. Il n'y a pas à plus développer. L'homme était donc bien intelligent. Mais que représente donc cette connaissance du bien et du mal? L'homme a le pouvoir de discernement moral. L'homme est intelligent. Mais malgré tout, la Bible nous dit que, en mangeant le fruit, il est devenu comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal. Donc voyez, on n'a toujours pas avancé. Mais on avance quand même, puisqu'on avance par élimination. Toujours pour appuyer le fait que l'homme est intelligent, c'est un verset qui me plaît particulièrement. Enfin, Dieu demande à Adam, c'est le verset Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Je trouve ça formidable, ce verset. Pour voir comment il les appellerait. Dieu veut voir comment l'homme va appeler sa création, c'est quand même formidable. Dieu n'a pas donné de nom aux animaux. Peut-être qu'il les a donnés en lui-même. Il a pensé des noms, mais il ne les a pas dit à Adam. Il a voulu qu'Adam poursuive, parachève sa création, aille plus loin, mettre le trait final. Ça, je trouve que c'est généreux de la part de Dieu, non seulement ça, c'est un signe de confiance, et puis ça honore l'homme. Il montre ainsi qu'il honore l'homme, qui est créé à son image. Et forcément, pour pouvoir donner un nom aux choses, il faut que ce nom ait un sens. On voit dans la Bible que le nom qu'on donne aux personnes, ces noms ont des sens, un sens. Bien, donner un nom à un animal, pouvoir donner un nom aux animaux, ça veut dire qu'on est capable de donner un sens. Et qui d'autre qu'une personne intelligente est capable de faire cela? Donc ça ne se discute pas, vous avez bien vu. L'homme était donc intelligent. Et pourtant dans la Bible, Ève, en regardant le fruit, a vu qu'il était bon pour ouvrir l'intelligence. Ouais, c'est mystérieux ça, pour ouvrir l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intelligent, mais on peut l'ouvrir d'une certaine façon. Ouais, on peut ouvrir l'intelligence, là, il y a plusieurs portes, on peut ouvrir d'une certaine façon l'intelligence. Donc, nous avons vu ce que l'arbre, la connaissance du bien et du mal n'était pas. Je récapitule. Premièrement, cela n'a rien à voir avec l'expérience sexuelle, une expérience sexuelle défendue. Deuxièmement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas en soi négatif, mortel. C'est un arbre qui est très bon. Très bon. Et Dieu a cette connaissance du bien et du mal. Troisièmement, l'homme, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas le discernement moral. L'homme possédait le discernement moral. Dieu lui avait donné déjà. Et quatrièmement, Dieu avait donné à l'homme l'intelligence. Il la possédait déjà. Passons maintenant à la deuxième partie, on arrive à la fin. Ce que Adam et Ève pensaient à tort découvrir ou obtenir en goûtant de ce fameux fruit. Ils pensaient découvrir quelque chose. Ils pensaient obtenir quelque chose. Adam et Ève pensaient peut-être pouvoir devenir parfaitement semblables à Dieu. En effet, Satan leur avait promis de devenir comme des dieux. Mais il avait apparemment oublié de leur faire connaître certains petits détails, plutôt fâcheux. Il n'aura pas tout dit. On lit dans Genèse 3, versets 4 à 5. On relit. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'est vrai, ils ne sont pas morts immédiatement. Ils n'ont pas été foudroyés. Hein. Je crois qu'Adam et Ève ont vécu plusieurs centaines d'années. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils sont morts quand même. En tout cas, ils sont morts spirituellement. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Connaissant le bien et le mal. Là-dessus, le serpent n'a pas menti. Hein. Dieu a dit dans le verset Genèse 3, 24, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le de vivre éternellement. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Là-dessus, le serpent n'a pas menti. Leurs yeux se sont effectivement ouverts. Ils sont d'une certaine façon été comme des dieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Connaissant en tout cas le bien et le mal, là, c'est clair. Quel ressenti négatifs ont-ils dû avoir lorsque la première émotion qu'ils ont eue en mangeant ce fruit a été celle de la découverte de leur nudité, c'est-à-dire de leur fragilité physique. On leur promettait de devenir comme des dieux. On leur a promis de devenir comme des dieux. Première émotion, un sentiment de fragilité, de peur. Quel malaise ont-ils dû ressentir lorsqu'ils ont découvert que le regard de l'autre porté sur leur corps leur était désagréable. Vous voyez, c'est quand même plutôt négatif comme sentiment. Quel trouble a dû être le leur lorsqu'ils ont expérimenté pour la première fois la peur de Dieu dans le jardin. On leur promettait de devenir comme des dieux. Regardez un tout petit peu ce qu'ils vivent. Étrange quand même. Quelle déception et quel sentiment de trahison et de déchéance lorsqu'ils se sont finalement aperçus que Satan les avait trompés. Déception. Dieu n'est pas déçu. Dieu ne se sent trahi par personne. Des hommes, oui. Nous découvrons qu'immédiatement avoir désobéi, Adam et Ève connaissent ce que j'ai appelé précédemment une chute vertigineuse aux enfers. Croyant certainement pouvoir être semblable à Dieu, Adam et Ève expérimentent au contraire des émotions nouvelles, négatives, des sentiments nouveaux, négatifs, qui ne ressemblent en rien à ce qu'un dieu ou à ce que des dieux peuvent vivre. Si l'on considère les vertus divines que sont la paix, l'assurance, la puissance, la gloire, l'omniscience, la sagesse, là, Adam et Ève, eux, ont expérimenté la peur, la faiblesse, la peur de la mort ou la mort, le mensonge, l'accusation. Rien à voir avec les vertus divines, vous en conviendrez. Oui, c'est étrange, cela. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connaissance du bien et du mal? Je me pose la question moi-même encore, en plaisantant un peu. Les hommes avaient dans le jardin éternel, dans le jardin, la vie éternelle. Et il leur semblait ne manquer plus que de la connaissance du bien et du mal pour devenir parfaitement comme Dieu. Il leur manquait ça apparemment, c'est ce qu'ils pensaient. Mais il se trouve que la connaissance du bien et du mal ne signifiait pas dans la réalité devenir comme Dieu. Non. Grosse erreur. Cela, si je m'en tiens au texte, cela signifiait devenir comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal, mais pas pour le reste. Donc il y a eu une belle entourloupe. En effet, nul n'est besoin de rappeler que l'histoire des hommes a connu et continue de connaître l'obscurantisme, la folie, l'irrationalité, bien que tous aient eu accès ou ont accès à la fameuse connaissance du bien et du mal. Nous l'avons, cette connaissance du bien et du mal. Nous l'avons tous. Regardez nos vies. La folie. On l'a bien. Hein. Quant à l'omniscience, qui pourrait faire écho à la connaissance du bien et du mal, on pourrait se dire finalement, cette connaissance, c'est la connaissance du bien et du mal, c'est peut-être la connaissance. Même si des progrès scientifiques phénoménaux sont intervenus depuis la chute en Éden, l'homme semble toujours aussi démuni et incapable de comprendre ce qui le détruit, ce qui le ronge, tant son intelligence a finalement été obscurcie par des millénaires de péchés. Donc, je suis à la fin de ce message. Je récapitule. Nous avons vu que cet arbre de la connaissance du bien et du mal n'est aucunement lié à une désobéissance liée à une interdiction d'union entre Adam et Ève. Rien à voir. Nous avons vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas négatif en soi. Connaître le bien et le mal, c'est un attribut de Dieu. Dieu a la connaissance du bien et du mal et c'est parfaitement compatible avec sa sainteté, avec son éternité. Troisième point, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne donne pas le pouvoir de jugement moral. Il ne donne pas non plus le pouvoir d'intelligence. Et la question, c'est de savoir, qu'est-ce que c'est que cette connaissance du bien et du mal? Si on élimine tous ces points-là, ça nous laisse perplexes. Vous voyez ça? C'est déroutant. Et c'est là la chose la plus difficile. J'ai, je vous assure, j'ai cherché, j'ai quand même regardé ce que on pouvait écrire à ce sujet. Ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Il y a beaucoup. On a du mal. Et donc, c'est un véritable défi. Et la prochaine fois que j'aborderai cette partie, alors qu'est-ce que c'est? J'userai de beaucoup de précautions, j'userai de beaucoup d'humilité pour essayer de dire ce que c'est. Mais ça va rester quand même un point sur lequel il faudra réfléchir. D'accord? Donc voilà un tout petit peu, je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé et qu'on pourra continuer une prochaine fois. Voilà, bon dimanche.